France Inter, Léa Salamé, Nicolas Demorand, le 7-9.
Bienvenue sur Inter, nous sommes le mardi 4 mai. Bonjour Agnès Soubiran.
Bonjour.
À la une de l'actualité ce matin, le projet de loi climat et résilience à l'épreuve du vote à l'Assemblée. Un texte loin de faire l'unanimité, trop punitif, dénonce la droite, pas assez engagée, estiment les écologistes. Les avancées et les déceptions dès le début du journal, Agnès, après les autres titres.
Comme un petit air de liberté retrouvé hier dans les trains en direction du sud de la France. La suite de notre série sur les élections régionales, aujourd'hui en Auvergne-Rhône-Alpes, avec un président sortant favori des sondages. Une nouvelle attaque au Burkina, une trentaine de villageois ont été tués. Et puis Manchester City, redoutable adversaire ce soir du PSG en demi-finale retour de la Ligue des Champions.
Et les invités d'Inter ce matin à 7h50 avec vous Léa Salamé.
Une activiste star, Nicolas. À 83 ans, elle continue le combat. Elle raconte dans un livre comment elle a organisé tous les vendredis les manifestations devant le Capitole à Washington contre le réchauffement climatique. L'immense Jane Fonda sera avec nous à 7h50.
À tout à l'heure et à 8h20, on se retrouvera à la veille de la commémoration du bicentenaire de sa mort avec deux spécialistes de Napoléon, Arthur Chevalier, Émilie Robbe au micro d'Inter. Vos questions dès maintenant, 01 45 24 7000.
France Inter.
C'est l'éternel, trop pour les uns, pas assez pour les autres, véritable bascule culturelle pour les uns donc, insuffisant face à l'urgence climatique pour les autres. Le projet de loi climat et résilience sera soumis au vote des députés cet après-midi. Un texte issu de la Convention citoyenne sur le climat, qui a donné lieu à l'un des plus longs débats de la Ve République à l'Assemblée. Plus de 3 semaines d'échanges, souvent passionnés. Alors, qu'en est-il exactement? Célia Kiré, vous avez suivi une grande partie de ces discussions. Commençons par le positif. Quelles sont les avancées ?
Alors, en premier lieu, avec 1 millier d'amendements votés, cette loi est inédite par son ampleur, selon le gouvernement, et elle marque des ruptures majeures. Exemple, les centres commerciaux. Le gouvernement ne veut plus voir de grandes surfaces de plus de 10 000 m² en zone périurbaine. Elles seront désormais interdites. Autre exemple, la voiture individuelle. Le ministère de la Transition écologique veut un virage. Cette loi encourage les particuliers à troquer leur voiture polluante contre une voiture qui l'est moins. Et il sera même possible d'avoir une aide pour un vélo. Cette loi crée d'ailleurs une quarantaine de zones à faible émission, des villes où les véhicules les plus polluants seront interdits. Et en échange, il y aura par exemple des voies réservées pour le covoiturage. Dans le logement, les passoires énergétiques devront être rénovées, sinon elles ne pourront plus être louées. Enfin, dans les cantines, le gouvernement veut sortir du tout viande ou poisson. Les collectivités pourront proposer un menu végétarien au choix chaque jour.
Et pourtant, Célia, il y a des déçus, les citoyens de la Convention climat et les ONG qui attendaient beaucoup plus de cette loi.
Oui, les ONG parlent d'un immense gâchis, d'une occasion ratée. Ces mots tranchent avec la fierté du gouvernement. Pour elle, il aurait fallu, par exemple, interdire davantage de trajets en avion. Il aurait fallu encore responsabiliser les grandes entreprises qui polluent le plus. Or, le gouvernement a jugé irrecevables les amendements qui les concernaient. Sur le logement, comme sur la pub, elles auraient voulu que le gouvernement frappe plus fort. Désormais, elles en appellent aux sénateurs, mais sans grand espoir. Une marche pour le climat est déjà prévue dimanche, 1 mois avant l'arrivée du texte au Sénat.
Merci. Si, Célia Kiré. Et puis, il y a une petite révolution dans ce texte. Pour la première fois, la prime à la conversion va permettre de passer de la voiture au vélo électrique, et non plus d'une voiture polluante à une voiture un peu moins polluante. Olivier Schneider est le président de la Fédération des usagers de la bicyclette.
Dans quelques mois, quand vous mettrez une voiture à la casse, vous pourrez obtenir un bonus pour acheter notamment un vélo ou un vélo assistance électrique ou un vélo cargo. Pour la première fois, la loi climat reconnaît que la solution, c'est pas forcément de remplacer toutes les voitures réputées polluantes par des voitures électriques ou moins polluantes. Et donc, en effet, c'est une véritable révolution culturelle là-dessus. L'Assemblée nationale reconnaît que retirer des véhicules de la circulation, c'est encore mieux.
Un propos recueilli par Sandy Dauphin. Et l'an dernier, 500 000 Français ont acheté un vélo électrique, soit un marché en progression de 30% par rapport à 2019. Dossier complet sur cette loi climat à retrouver sur franceinter.fr. Eux ont choisi le train pour se déplacer, profitant hier de la levée de l'interdiction de déplacement à plus de 10 km. Chose vue et entendue dans un TGV entre Paris et Marseille. C'est un reportage de Faustine Calmel.
On grimpe dans le TGV 6155, c'est parti. Deux rames, une complète, l'autre quasiment pleine. Voiture 17, on croise Daniel.
Moi, de toute manière, le 3, je partais. Par la SNCF ou en voiture, mais je partais. Je quittais ma maison, je quittais la prison. pour aller, parce que normalement, la vocation de l'être humain, c'est d'aller au contact de la nature.
Les calanques pour la septuagénaire. Voiture suivante, c'est Serge qui retourne dans sa maison secondaire.
J'ai à la fois des travaux, m'occuper de mon jardin, et puis m'aérer aussi. J'irai au bord de la mer pour voir à quoi ça ressemble. Je ne l'ai pas oublié, mais enfin... Là, on a envie de rattraper le temps perdu.
Quatre trop longues semaines pour Didier et Valérie qui vient.
Surtout rejoindre mes enfants qui habitent à Marseille. Nous venons de Rouen.
Enfin, c'est la descente du train et les embrassades avec Philippine.
Bah, de la joie de se retrouver, les retrouvailles, voilà.
Bah, pareil, ils m'ont beaucoup manqué, donc je suis contente de les voir.
On se voit régulièrement, en général, au moins presque une fois par mois. Donc là, c'est vrai que c'est difficile avec le confinement. Hein. On est obligé d'attendre 3 mois... Là, c'est un bon moment, ça va être une bonne semaine.
Pour satisfaire ses voyageurs de retour sur les rails, la SNCF promet 8 TGV sur 10 à la fin de la semaine. C'est 2 fois plus que ces derniers jours.
Reportage de Faustine Calmel. Avec près de 29 000 malades hospitalisés, dont 5 630 en réanimation, les chiffres restent stables. Le taux de positivité des tests, lui, a baissé, passant de 10% la semaine dernière à 7,6%. Côté vaccination, plus de 16 millions de doses injectées. Et l'Agence européenne du médicament qui a commencé hier à évaluer l'utilisation du vaccin Pfizer-BioNTech pour les 12-15 ans, une utilisation que les États-Unis s'apprêtent à autoriser. Et une bonne nouvelle hier pour les établissements de cure thermale qui vont finalement pouvoir rouvrir au 19 mai, en même temps que les terrasses, les commerces et les lieux culturels, avec là encore une jauge à 35%. Soulagement après 6 mois de fermeture pour Thierry Dubois. Il est le président du Conseil national des établissements thermaux français.
Beaucoup de curistes n'ont pas pu faire leur cure thermale en 2020, puisque nous n'avons fonctionné que 4 ou 5 mois selon les établissements, et beaucoup sont en grande souffrance physique et psychologique. Tous les appels que nous recevons vont dans ce sens-là. Alors après, sur le plan économique, c'est une double bonne nouvelle pour les établissements thermaux eux-mêmes, mais surtout pour les communes où elles sont implantées, et je dois vous rappeler que 71% des établissements thermaux sont implantés dans des villes thermales de moins de 5000 habitants, où l'établissement thermal est très souvent la seule ressource ou la première ressource privée de ces territoires. Donc, quand un établissement thermal est fermé pour ces petites communes, c'est toute une ville thermale qui est en sommeil, voire en train de végéter.
Un propos recueilli par Mathilde Vinceneuf.
Et il est 7h08, la suite de notre série sur les élections régionales, Agnès. Aujourd'hui donc en Auvergne-Rhône-Alpes.
Où le président sortant Les Républicains, pas encore officiellement candidat, fait figure de favori. Laurent Wauquiez arrive en tête du sondage Ipsos Sopra Steria pour France Inter. Il est crédité au premier tour de 31% des voix face à un Rassemblement National en recul. Laurence Perron.
Et cette prise de pouls électorale ne devrait pas entamer sa détermination. 31% des intentions de vote et un bilan salué à 62% par les personnes sondées. Le Rassemblement National, emmené par un ancien de la France insoumise, Andréa Cottarac, ferait moins bien que son prédécesseur, 19%. L'enquête montre que le patron LR de la région siphonne aujourd'hui largement l'électorat de l'extrême droite, notamment sur les questions de délinquance et d'immigration qui apparaissent avec la crise sanitaire sur le podium des préoccupations des habitants de la région. La gauche, elle, fait les frais de son éparpillement et d'une faible notoriété à l'exception de la candidate socialiste Najat Vallaud-Belkacem, mais l'ancienne ministre de l'Éducation nationale de François Hollande souffre d'une image très dégradée. 53% d'opinions négatives révèle le sondage. Elle est testée à 11% quand sa concurrente écologiste Fabienne Grébert est à 13%. Le parti présidentiel tire lui son épingle du jeu. Son candidat, le député Bruno Bonnel, est donné à 16%. Les communistes alliés à la France insoumise échapperaient de peu à la disqualification avec 5% pour Cécile Kekerman.
Laurent Wauquiez qui devrait se déclarer dans les tout prochains jours. Reportage en Auvergne-Rhône-Alpes dans le journal de 8h. Et demain, nous serons dans les Hauts-de-France. Et puis, y aura-t-il une nouvelle liste LR en PACA? La journée s'annonce électrique au siège du parti Les Républicains avec un comité stratégique ce matin et une réunion des investitures ce soir. Une bagarre qui a mal tourné, c'est la ligne de défense soutenue par Nordal Lelandais hier au premier jour de son procès devant la cour d'assises à Chambéry. L'accusé a réfuté toute volonté de tuer le jeune caporal Arthur Noyer. Nous y reviendrons dans le journal de 7h30.
Il est 7h10, le Burkina Faso, Agnès, s'enfonce dans la violence.
Avec une nouvelle attaque dans l'est du pays, dans ce secteur où 3 Occidentaux ont été tués la semaine dernière. L'attaque visait cette fois un village près de la frontière avec le Niger. Il y aurait une trentaine de morts. Nathanaël Charbonnier.
L'alerte avait pourtant été donnée par ce qu'on appelle les VDP, les volontaires de la défense de la patrie. Des milices locales, armées, qui essaient tant bien que mal de protéger les populations. Mais voilà, Dans cette région reculée du Burkina, il est bien difficile de lutter contre les djihadistes qui vont et viennent de village en village pour terroriser les habitants dans un premier temps, puis les tuer et les massacrer dans un second. Et c'est ce qui s'est passé à Codiel, où des dizaines d'hommes ont fait irruption dans le village pour brûler les maisons et tuer aveuglément leurs habitants. Conséquence, des morts par dizaines et de nouveaux déplacés qui ne vont pas manquer de rejoindre les camps les plus proches, où ils devront survivre avec leurs enfants en attendant un hypothétique retour au calme et à la normale. Ce qui est certain, c'est que nous sommes non loin de la frontière avec le Niger et qu'il semble que les djihadistes tentent de profiter de l'incertitude politique qui règne actuellement vers cette frontière pour gagner du terrain et poursuivre ainsi leur progression vers le sud. À Dakar, Nathanaël Charbonnier, France Inter.
Après 27 ans de mariage, 3 enfants, une fondation et une fortune estimée à 124 milliards de dollars, Bill et Melinda Gates divorcent. Le fondateur de Microsoft et sa femme affirment qu'ils vont continuer à travailler ensemble pour leur fondation, qui lutte contre la pauvreté et les maladies dans le monde. Enfin, ils sont au pied du mur, les Parisiens du PSG, battus sur leur terrain du Parc des Princes la semaine dernière 2-1 en demi-finale aller de la Ligue des Champions. Et le mur qui se dresse devant les hommes de Pochettino, c'est Manchester City, club phare du championnat anglais, à qui tout semble réussir cette saison. Jérôme Val est à Manchester pour France Inter.
Il règne sur Manchester comme une force tranquille, certain que cette fois c'est la bonne. À 90 minutes de rentrée dans l'histoire, City ne veut céder à aucune panique. Le défenseur, John Stones, très serein.
Nous sommes raisonnablement confiants. Nous devons l'être. C'est une grande occasion pour nous, pour le club. Alors il faut rentrer dans ce match, comme nous l'avons fait mercredi. À Paris en deuxième mi-temps, reprendre le fil de ce match après cet excellent résultat.
Invaincu cette saison en Ligue des Champions, City n'a jamais semblé aussi proche d'une première finale européenne.
C'est un privilège de vivre ça ici.
L'entraîneur Pep Guardiola a connu des désillusions depuis son arrivée au club en 2016, comme l'élimination face à Lyon l'an passé en quart de finale. Mais cette saison, beaucoup de choses ont changé selon le catalan.
Dans les mauvais moments, nous avons appris à bien réagir et nous le ferons. Nous savons à quel point nous pouvons être performants. Malheureusement, tout ça, ce ne sont que des mots. Malgré tout, je suis incroyablement optimiste.
Sûr de sa force dominateur en Angleterre, la presse britannique, elle aussi, ne voit pas ce qui pourrait arrêter City, dont le règne, veut-elle croire, pourrait durer longtemps sur l'Europe du football. Manchester, Jérôme Val, France Inter.
Manchester City PSG, c'est donc ce soir à partir de 21h.
Merci Agnès Soubiran. Dans 3 minutes, c'est le zoom sur les nouveaux bras de la santé.